Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Geneviève Huglot, dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouilloux, dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeur de Calade, bonjour, vous écoutez Radio Calade, je viens de le dire, et vous écoutez surtout Poker Menteur, votre émission mensuelle favorite. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Mais d'abord, comme d'habitude, la chronique géopolitique de notre compère Jean-François, la chronique qui s'appelle Fenêtre sur le monde.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonsoir Jeff.
Bonsoir Geneviève.
Bon, alors de quoi tu nous parles ce soir ?
Eh bien, ce soir, j'ai envie de parler de quelqu'un qu'on a un petit peu oublié, qu'on aurait aimé définitivement oublier, mais malheureusement, il revient sur la scène internationale, ou au moins régionale. Je veux parler de Bachar al-Assad. Car vendredi dernier s'ouvrait le 32e sommet de la Ligue arabe à Jeddah, en Arabie saoudite, avec en vedette donc Bachar al-Assad, le président syrien, dont la présence consacre son retour dans le giron régional après plus d'une décennie de mise au banc. Une réintégration qui réhabilite un peu plus son régime, responsable pourtant d'un conflit sanglant qui a fait plus de 500 000 morts et des millions de déplacés. Une réhabilitation guidée par la realpolitik qui pose question.
Bon, en clair, on savait déjà que notre mémoire était courte, mais là, comment est-ce que tu expliques un tel retour en force ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux États qui sont à l'origine de son retour. D'abord, les Émirats arabes unis, qui ont été les premiers à rouvrir leur ambassade à Damas en décembre 2018, suivis par l'Arabie saoudite au début de ce mois de mai. Le but recherché par ces deux pays du Golfe est de contrer l'influence iranienne en Syrie. En effet, l'Iran est l'allié numéro 2 du régime Assad et la possibilité qu'il renforce son influence à la faveur d'une diminution de la présence russe est une hypothèse crédible, d'autant qu'on parle d'un approvisionnement en pétrole venant de l'Iran pour combler le manque causé par les difficultés russes. En outre, l'Arabie saoudite du prince héritier Mohamed Ben Salman tente de s'affirmer comme le leader régional et ce sommet qui se tient donc en Arabie saoudite est une façon de montrer sa force sur la scène régionale. Enfin, pour Riyad et pour Abu Dhabi, qui sont loin d'être des promoteurs de la démocratie hein, quand même, et des droits de l'homme, se rapprocher de Damas, c'est aussi mettre fin au processus de contre-révolution entamé en 2011, considérant que ces mouvements de contestation touchent à leur fin.
Ok. Et tu penses que cette stratégie va vraiment permettre de contrer l'influence iranienne ?
Ce qui est sûr, c'est que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite partent de loin, car l'influence iranienne demeure très forte en Syrie. D'ailleurs, le président iranien Ibrahim Raisi s'est rendu à Damas seulement quelques jours après l'annonce de la normalisation des rapports entre la Syrie et l'Arabie saoudite. Téhéran souhaite ainsi rappeler à Bachar al-Assad tout ce qu'il lui doit, car sans l'Iran, il ne serait sans doute plus au pouvoir aujourd'hui.
Bon, ok. Et donc, en dehors d'une lutte d'influence à l'échelle régionale, il doit bien exister d'autres raisons qui poussent les membres de la Ligue arabe à réhabiliter Bachar al-Assad ?
Ouais, effectivement. Hein, les pays arabes espèrent que le régime de Bachar al-Assad agisse contre le trafic régional de captagon. Qu'est-ce que c'est que le captagon ? Bah, c'est une amphétamine de synthèse principalement fabriquée en Syrie. Et vous devez connaître ça à travers le djihadisme de Daesh. Beaucoup de djihadistes de Daesh prenaient ce captagon. Ça leur permettait de combattre plusieurs jours d'affilée. Et aujourd'hui, c'est extrêmement utilisé en Moyen-Orient, que ce soit par les élites saoudiennes, par exemple, pour faire la fête dans un but festif, mais aussi par les travailleurs migrants pour travailler plus longtemps et pour gagner plus d'argent, pour réussir à rentrer au pays plus tôt. Voilà, donc ce trafic de captagon est extrêmement fort au Moyen-Orient. Que ce soit donc en Syrie, en Arabie saoudite, aussi en Jordanie et l'Irak. Le problème des réfugiés syriens se pose également, c'est un autre problème très fort et qui explique la présence de Bachar al-Assad ici. La Ligue arabe souhaite ainsi que la Syrie assure un retour en toute sécurité des nombreux réfugiés qui sont partis hein, depuis 2011 et installés au Liban ou en Jordanie, en tout cas surtout le pourtour du Moyen-Orient.
Dans quelle mesure alors la normalisation de ces relations diplomatiques va-t-elle permettre de reconstruire la Syrie ?
Outre pour honorer son image, Bachar al-Assad s'est rendu à Jeddah pour des raisons très pragmatiques, puisqu'il cherche à obtenir un soutien économique de la part des pays du Golfe. et son pays en a grandement besoin. En effet, le coût de la guerre s'élève à 1,2 trillion de dollars, un coût dû à des destructions massives d'infrastructures causées par les tactiques de guerre utilisées par l'alliance syro-russe. Ben, souvenez-vous, hein, par exemple, des photos montrant une ville d'Alep totalement dévastée. De plus, on compte aujourd'hui 12 millions de Syriennes et Syriens souffrant d'insécurité alimentaire, phénomène d'ailleurs renforcé par le conflit en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie et du blé. Enfin, le taux de pauvreté en Syrie atteint actuellement les 90%, donc la situation est vraiment catastrophique.
Bon, alors t'es en train de nous dire quoi là, Jeff, que finalement Bachar al-Assad, c'est le grand gagnant de cette guerre et de ce sommet ?
Ouais, totalement. D'ailleurs,
c'est rassurant.
Oui, Bachar ne fait que marcher ici dans les pas de son père dans ce domaine, hein, parce que ce sont des habitués, les Assad, puisque le régime d'Hafez al-Assad de 71 à 2000 avait déjà obtenu des financements considérables de la part des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Et à l'époque, c'était pour faire face à Israël. Bachar al-Assad, donc, il utilise les mêmes ressorts appliqués par son père dans le passé.
D'accord, donc les vieilles recettes, finalement, sont toujours bien efficaces.
Exactement.
Ok, et à contre-courant de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, pardon, quel pays était réticent à la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe ?
Bah, y a le Qatar, déjà, hein, qui a beaucoup soutenu la révolution syrienne et qui cherche à se détourner de l'Arabie Saoudite. Et le Qatar a annoncé qu'il ne s'opposerait pas à la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, mais ce n'est pas pour autant qu'il renouera des relations diplomatiques. Le Maroc également, contrairement à son voisin algérien, adopte cette position qatarie.
D'accord. Donc ça, c'est pour le bassin méditerranéen. Ouais. Et donc pour les Européens, comment on se positionne ?
La normalisation des relations entre la Syrie et les pays arabes risque d'accroître les tensions au sein des Européens. En effet, la France et l'Allemagne, les deux fortes puissances européennes, sont fermement opposées à une réhabilitation de la Syrie. On se souvient de l'opposition française à Bachar al-Assad. Tandis que l'Italie, l'Autriche, la Grèce et d'autres pays sont plutôt favorables. Certains États européens ont même déjà rouvert leur représentation diplomatique à Damas. Hein. Par exemple, la République tchèque n'avait jamais quitté la Syrie, bizarrement.
Et alors, les États-Unis ?
Les États-Unis, Joe Biden, il a toujours été clair sur ce sujet. Il est hors de question que les États-Unis lèvent les sanctions contre Damas et entament un processus de normalisation. Pour finir, on peut donc signaler que Bachar al-Assad n'a finalement pas été la star annoncée de ce sommet. C'est assez ironique parce que c'est finalement Volodymyr Zelensky qui s'est invité au sommet et qui lui a volé la vedette en faisant une apparition express pour réclamer le soutien des pays arabes, connus comme étant plus ou moins neutres dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Le chef d'État syrien a sans doute peu apprécié cette venue puisque la Syrie est l'un des rares pays du monde à s'être aligné totalement sur son allié russe depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment en votant contre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant à la Russie de cesser les hostilités en Ukraine. Et surtout, en reconnaissant les républiques séparatistes pro-russes du Donbass, illégalement annexées par Moscou.
Ok, ben voilà qui va nous donner à réfléchir. Merci Jeff.
Merci.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Merci à Jean-François et Geneviève pour cette chronique Fenêtre sur le monde. Notre émission donc Poker Menteur démarre réellement maintenant. Nous allons parler donc de la méditation et pour cela nous avons invité une invitée qui commence à avoir ses marques dans le studio. Hein, c'est Emma avec qui on a déjà fait plusieurs émissions. Ouais. Sur lesquels sujets, rappelle-nous ?
Sur la CNV, la communication non violente et sur Maria Montessori.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est un peu toi qui nous a convaincus de faire une émission, mais avec Geneviève également. Hein. Geneviève, bonjour Geneviève.
Bonjour à vous.
Qui était très partante sur la pratique de la méditation. C'est une pratique assez connue désormais en Occident. On a voulu un peu aller voir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est parti mesdames pour la méditation. Qui commence ? Vous allez nous parler des origines, non ? Un petit peu éventuellement ?
Bah oui, bah tu me connais bien hein, Patrick. On va démarrer par un petit topo historique, géographique, étymologique, tu vois, un truc
on
sérieux.
On ne se refait pas, poker menteur. Donc c'est à toi Geneviève, on t'écoute.
Ok, pour démarrer simplement, je vais repartir d'un souvenir d'enfance. Je me souviens notamment d'une interview du Dalai Lama qui regardait d'un air assez amusé le succès de la méditation en Europe et qui avait la sensation que finalement, pour les Européens, méditer, c'était un petit peu comme mettre le courant sur une petite guirlande électrique et d'avoir plein de petites lumières qui scintillaient dans tous les sens. Et donc, pour lui, en fait, il y avait quand même une forme... incompréhension, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, Il regardait cette pratique à l'aune de
son origine, on pourrait dire, parce que c'est quand même du côté du bouddhisme qu'on trouvera l'origine.
Complètement. Et je trouve que ça pose bien d'emblée le fait que méditer, on trouve ce mot partout, à l'envi, dans les librairies, dans des magazines de développement personnel, etc. Mais derrière, qu'est-ce qui se cache véritablement? Et d'emblée, il y a quand même vraiment deux courants qui me semblent historiquement intéressants. Donc, tu l'as dit à l'instant, Emma aussi nous en parlera plus longuement après. Le bouddhisme a son origine, en fait, quasiment au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, puisque dans des grottes, on a retrouvé des dessins d'hommes en position de lotus, en train donc de probablement pratiquer la méditation. Donc, c'est dire si l'histoire de la méditation remonte aux origines de l'homme. Et donc, cette origine asiatique met en avant une culture vraiment spirituelle. C'est-à-dire qu'on pratique la méditation pour ajouter une corde à l'arc de sa spiritualité. C'est une pratique parmi d'autres. Ouais. Alors qu'en Occident, on n'est pas du tout dans cette logique-là. D'abord, en fait, on a toujours médité aussi en Occident, mais plutôt par le biais des religions du livre.
Oui, tout à fait. Donc là, on va voir dans les courants chrétiens l'équivalent, en quelque sorte, des pratiques de méditation.
Oui, complètement. Plusieurs conceptions, d'ailleurs, qui peuvent apparaître dans le christianisme. Pour les moines orthodoxes, on pratique la prière du cœur, qui est une prière silencieuse, où on invoque donc le nom de Jésus au rythme de la respiration. L'oraison silencieuse aussi, pour les carmélites, ou encore des exercices spirituels, notamment développés par Inès de Loyola. C'est dire si les noms sont prestigieux, et c'est dire si cette pratique spirituelle est profondément ancrée dans l'ADN de l'ouverture du cœur envers Dieu.
D'accord.
Voilà, donc on peut trouver aussi des courants chez les juifs, chez les musulmans, notamment par le biais du soufisme. Dans tous les cas, le mot méditation est indissociable d'une pratique mentale. Donc ça tombe bien, parce que c'est l'origine étymologique, justement. Donc ça viendrait du latin meditare, medeor, qui signifie également soigner. Et c'est là où, finalement, on retrouve
Qu'est-ce qu'on retrouve? Quel suspense, Geneviève?
Quel suspense?
Tu nous fais souffrir, là?
Non, il faut se libérer de cette souffrance.
Ah oui, pardon.
Ça va être l'objet de l'émission, Patrick, tu n'es pas bien dans le ton.
Exactement, c'est vrai, j'ai oublié.
Donc, de se soigner, ou en tout cas d'apporter un mieux-être à notre corps et donc à notre esprit.
D'accord. Alors, Emma, tu voulais rajouter?
Je voulais continuer.
Bah vas-y alors.
En fait, moi je vais parler plus spécifiquement de la méditation bouddhiste et je voulais commencer par vous partager un petit trésor. En fait, il y a une quinzaine d'années, j'ai lu un livre qui a un peu changé ma vie, en tout cas qui a bien contribué à la faire avancer. C'est un roman qui s'appelle « Sur les traces de Siddhartha » de Thich Nhat Hanh. Donc cet homme, c'est un maître bouddhiste vietnamien qui est très connu, qui a écrit plein d'ouvrages en lien avec la méditation et le bouddhisme. Il a été réfugié politique en France à partir de 1972 et il a animé des séminaires en Dordogne. Donc il est mort en janvier 2022, c'est assez récent. Et en fait, ce livre, c'est une biographie romancée du Bouddha. Ouais. Je ne vais pas vous le raconter. Par contre, je me suis appuyée en partie sur ce roman, en partie seulement, pour expliquer les bases et les origines du bouddhisme et de la méditation bouddhiste. En fait, pour résumer l'histoire du Bouddha, donc le Bouddha, c'est un prince qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui est né en Inde, près du Népal, à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans une famille aisée. Il est fils de roi, il est beau, il est intelligent, il est aimé de tous. Donc bref, sa vie est parfaite, il a une jeunesse un peu dorée, un petit peu protégée de tout. Et à l'adolescence, il va commencer à se rendre compte qu'il y a des gens qui sont malades, il va croiser la souffrance, la mort, et il va commencer à se poser des questions et se dire, mais en fait, comment échapper à ça? Comment on peut échapper à ça? Et là, en fait, il va partir dans une quête spirituelle, donc il abandonne sa famille, ses privilèges pour vivre de manière sobre. Et alors là, je vous passe tout le détail, mais la légende dit qu'il a fini par atteindre l'éveil sous un arbre, en méditant sous un arbre. Alors l'éveil, c'est quoi? C'est la conscience de toute chose. Le fait d'avoir conscience d'être relié à chaque être vivant, à chaque particule sur cette terre. Et en fait, ça permet de se libérer de l'attachement. L'attachement, c'est ce qui engendre la souffrance. Et donc, du coup, il a pris le nom de Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé.
D'accord. Puisque donc, il cherchait la solution à ce problème. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance ? Donc, c'est quelque part, l'histoire dit, c'est à travers cet éveil qu'il trouve un peu la porte de sortie.
C'est ça. L'idée, c'est de se libérer de la souffrance, en fait.
D'accord.
Et du coup, ensuite, il va diffuser ce qu'il a découvert dans des enseignements qu'on appelle le dharma. Donc, le mot dharma, c'est un mot sanskrit qui veut dire science de l'intériorité. Je tiens à dire que le bouddhisme, ce n'est pas une religion, contrairement à ce qu'on dit, c'est plutôt une philosophie. L'idée, en fait, c'est de suivre la voie du Bouddha. Et la méditation bouddhiste, c'est une manière de faire l'expérience de cette voie.
D'accord.
Alors, il y a de nombreuses formes de méditation bouddhiste. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs au centre Karmaling. C'est un centre issu du bouddhisme tibétain qui est situé près de Chambéry. J'ai des amis qui ont vécu là-bas plus de 10 ans, qui y enseignent encore. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je remercie grandement Marina qui a bien contribué à affiner cette partie de mon intervention là, qui arrive.
D'accord. Merci Marina.
Voilà, on remercie beaucoup Marina. Alors, en fait, dans la méditation, il y a plusieurs étapes. En premier, on va commencer par tranquilliser son esprit. Donc, c'est la pratique de shamatha. Une fois qu'on a tranquillisé son esprit, qu'on l'a apprivoisé, on va pouvoir travailler avec lui. Et là, il y a plein de pratiques possibles. Alors, quelques exemples que j'ai pu expérimenter. Il y a la pratique de Tanglen. L'idée, c'est de souhaiter le bien pour soi et pour les autres. Et du coup, on peut le visualiser avec une fumée blanche à chaque expiration. Quand on pratique, on visualise une fumée blanche, d'abord qui nous enveloppe nous-mêmes, puis qui va envelopper nos proches, ceux qu'on aime, puis les personnes moins proches, et pour finir, l'ensemble des êtres vivants, y compris ceux que l'on n'apprécie pas.
Donc c'est un travail de visualisation quand même.
Alors là, c'est déjà un premier travail de visualisation. Là.
Dans cette technique-là, attention, dans il y a plein de techniques
dans
différentes.
Dans cette pratique, hein.
Voilà, dans cette pratique-là.
Exactement. Une fois qu'on a apaisé son esprit, d'abord avec shamatha.
D'accord.
Il y a une autre pratique qui s'appelle Vipassana. L'idée là, c'est juste d'observer l'esprit jusqu'à découvrir sa nature, la nature de son esprit et d'accord. la nature de la réalité.
Ça a l'air plus compliqué dit comme ça.
Alors, il faut pratiquer un petit peu pour comprendre.
Oh oui, ça a l'air compliqué ton truc.
Alors, donc cette pratique-là, je la connais moins. Moi, celle que je connais bien, qui fait partie du Vajrayana, qui est une des voies, c'est la pratique de Chenrezi, qui signifie l'immense compassion. En fait, c'est une pratique qui permet de développer sa compassion. On va utiliser des représentations symboliques pour développer la compassion, l'amour altruiste, le fait d'ouvrir son cœur.
D'accord.
Et pour ça, dans le Vajrayana, notamment, en fait, on utilise des mantras. Mantra, ça signifie « parole protectrice de l'esprit ». Et du coup, ces mantras, ils vont remplacer le blabla incessant qui est tout le temps là dans notre tête.
La grande difficulté, c'est ça, c'est de faire taire la petite machine qui parle sans arrêt dans notre tête.
C'est exactement ça. Et bien là, en fait, on va la faire taire par ces sons particuliers des mantras qui vont permettre de sortir de ce mode de pensée.
C'est des sons ou des mots, les mantras ?
Alors, c'est des mots, mais les sons de ces mots ont un impact
d'accord.
C'est
plus la sonorité que le mot lui-même qui est important.
Ouais, par exemple, il y a un mantra très connu qu'on récite pendant la pratique de Chenrezi, c'est le « Om Mani Padme Om ». Alors voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, elle est quand même très très connue. Donc c'est du sanskrit, ça veut dire mot pour mot le joyau dans le lotus. Et en fait, l'idée générale dans cette phrase, c'est de regarder tous les êtres humains avec compassion.
D'accord.
Alors, ce que je viens de vous dire là, c'est un aperçu très 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 général, pas du tout complet sur le bouddhisme et la méditation bouddhiste.
Et si je peux me permettre, on voit que derrière, à travers tout ce que tu as cité, il y a vraiment un lien avec l'hindouisme également, d'accord ?
Ah mais bien sûr.
Le bouddhisme est issu de l'hindouisme, mais on voit...
Le Bouddha,
il
est né dans une famille hindouiste. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ouais, tout à fait.
Le bouddhisme existe, mais il vient de l'hindouisme. Et donc, toutes ces références sont vraiment des références de l'hindouisme.
Tout à fait. Et donc, je voulais juste préciser que si vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez faire à l'Institut Karmaling, dont j'ai parlé tout à l'heure, des week-ends de découverte. C'est franchement un lieu qui est
d'accord.
hyper apaisant, qui est vraiment très, 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 très agréable.
Ok, très bien. Très bien. Est-ce que tu en as fini ou est-ce que tu veux conclure ?
Alors, je vais vous parler un petit peu de la méditation pleine conscience.
Ah, d'accord. Qui est beaucoup plus connue celle-ci,
qui est beaucoup plus
en Occident,
et qui est celle qui est arrivée après et qui vient de la méditation bouddhiste, en fait.
D'accord.
Donc, cette méditation qu'on appelle aussi mindfulness, Oui. Elle a été théorisée par l'Américain John Kabat-Zinn. Mm-hmm. C'est un professeur de médecine, docteur en biologie moléculaire. Et il a lui-même suivi des enseignements de Thich Nhat Hanh, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit le fameux livre qui m'avait beaucoup marqué. Donc, il va fonder des techniques de réduction du stress, notamment la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui vient de la méditation bouddhiste et qu'il a adaptée.
D'accord.
Donc, il faut savoir une chose importante, la méditation de pleine conscience, c'est une méditation laïque. Elle n'est pas liée à une pratique religieuse ou spirituelle. Mmh. C'est vraiment un entraînement du cerveau. Mmh. Il est reconnu par la médecine.
Qui est reconnu par la médecine. Néanmoins, ça illustre totalement ce qu'on expliquait au début, c'est-à-dire vraiment voilà, cette séparation qui a lieu à partir des années 60, avec d'un côté donc une pratique spirituelle et de l'autre une pratique occidentale apportée par des moines bouddhistes en Occident, reprise, théorisée et occidentalisée, puisque
complètement
vidée de cet habillage spirituel.
Dimension spirituelle, oui.
Tout à fait. Alors, donc, ce que je voulais préciser, c'est qu'il existe aujourd'hui en France un DU de médecine et pleine conscience.
Diplôme universitaire. Sans doute.
Et que cette pratique, elle a beaucoup été répandue en France par le psychiatre Christophe André, qui va l'introduire à l'hôpital Sainte-Anne, où il travaille sur la dépression et les troubles anxieux. Mm-hmm. Il va vraiment utiliser ça avec ses patients pour prévenir les rechutes dépressives.
Elle est pas mal utilisée dans le cadre thérapeutique.
Et diminuer l'anxiété, exactement.
Ouais, ouais.
Et puis, deux mots sur le moine bouddhiste français Mathieu Ricard, qui contribue aussi surtout à faire mieux comprendre cette pratique parce qu'il a fait des expériences en neurosciences. Enfin, il s'est livré à des expériences en neurosciences. On lui a mis des écrotes sur le cerveau pour voir un petit peu ce qui se passait quand il méditait.
C'est un moine, mais c'est aussi un scientifique.
C'est aussi un scientifique.
Il est très connu.
Il a un doctorat en génétique cellulaire.
Voilà, c'est ça.
Donc, ouais, tout à fait. Et puis, enfin, juste Eckhart Tolle, qu'on ne peut pas ne pas citer. C'est un écrivain d'origine allemande. Il a écrit un livre qui est un best-seller incroyable qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». C'est une sorte du guide de la pleine conscience.
De quand, ça?
Eckhart Tolle,
tu n'en sais rien.
Je n'en sais
absolument rien. Bravo.
Je l'ai pourtant, j'en ai
eu. Eh bien, je ne sais pas
extraits,
non plus, c'est pas grave.
Je ne saurais pas vous le dire.
D'ici la fin de l'émission, on aura la réponse.
Voilà. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission, je vous ferai expérimenter quelques minutes la méditation de pleine conscience.
Voilà, on fera un peu de pratique, mes chers auditeurs. Très bien. On va faire une petite pause musicale, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, vous allez découvrir, c'est la surprise. C'est parti.
Qui se prennent à mon filet de voix, pauvre pêcheur. Oh, fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sautes d'humeur, même si je n'en suis pas.
Sans amour, sans haine.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission ce mois-ci est consacrée à la méditation, messieurs, dames, avec Emma, qui est à nouveau parmi nous, et bienvenue oui. Emma à nouveau, et Geneviève, qui ont toutes les deux beaucoup travaillé là-dessus. Alors, on a présenté dans une première partie, avant la pause musicale, qui était donc Zazie Zen, hein, d'accord ? Merci Emma, c'est elle qui a choisi. On a présenté
c'était
un petit
facile.
Peu les origines, et puis un petit peu quelques pratiques, notamment la méditation...
Pleine
en pleine conscience, voilà, je l'avais perdu. Nous allons continuer notre présentation. On va s'intéresser, si je ne dis pas de bêtises, aux bénéfices de cette pratique.
Complètement.
Qu'est-ce que ça apporte ? Ça nous donnera peut-être une raison, enfin une première axe sur la raison du succès de cette pratique en Occident.
Tout à fait. Alors moi, je vais commencer juste par mon expérience, puis après Geneviève, elle ira dans les sciences. Moi, en fait, j'ai suivi deux cycles d'ateliers de pleine conscience avec le docteur Chaigne au Bois d'Oin. Donc un cycle débutant et un cycle approfondissement. Moi, je suis d'un naturel plutôt stressé et anxieux et j'en ai vraiment retiré plus de calme, beaucoup moins de fatigue au quotidien. Et alors, j'ai eu un petit effet qui se coule, petit effet secondaire intéressant. Je suis beaucoup plus ordonnée depuis que je pratique la méditation, ce qui n'était à la base pas du tout l'effet recherché.
T'es en train de dire, Emma, qu'on va le noter sur un papier en lettres d'or.
Ouais.
Ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'une
Alors, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, hein, mais moi, ça m'a fait ça. Et moi, je pratique aujourd'hui avec l'application Petit Bambou, que j'utilise même parfois aussi en classe avec mes élèves.
Extrêmement célèbre, extrêmement populaire.
Ouais, il y a Christophe André qui a des pratiques dans l'appli Petit Bambou. Et mes élèves, en fait, je fais de temps en temps de la méditation avec eux et ils le réclament très souvent, le moment méditation. Donc,
d'accord.
Je me dis qu'ils doivent eux aussi trouver un bénéfice.
D'accord.
Et en fait, pour moi, la méditation de pleine conscience, c'est un peu l'équivalent psychique de se brosser les dents. C'est une hygiène au quotidien. Pas
d'accord.
Pour le corps, mais pour le cerveau.
L'intérêt, ce serait la régularité de la pratique, oui, effectivement.
Absolument.
Parce
tous
que
les
faire
jours,
ça une fois pour découvrir, c'est une chose, mais bon,
ça
ne va pas apporter grand-chose.
Il faut méditer tous les jours.
Voilà, tout à fait. D'accord, très bien.
Et puis, on peut se dire que si c'est bon pour le cerveau, ça peut être bon pour le corps aussi un petit peu, hein, les deux étant liés. Alors, si on se penche effectivement du côté des sciences, en tout cas, la méditation a été très, très observée, a été l'objet l'objet de travaux scientifiques, voilà, d'études
hein.
extrêmement sérieuses. Quels sont les avantages qu'on peut retirer ? Ben, en fait, là, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose. Hein, se poser au calme, réduire le stress au quotidien, voilà, tout ce qui, dans notre société, peut sembler être extrêmement attractif, hein, en tout
ouais.
cas, peut répondre à un vrai besoin de tout un chacun. Néanmoins, ce qui nous pose question, c'est plutôt essayer de comprendre la réalité physiologique, voilà, voire physiopathologique des effets de la méditation. Voilà, parce que dire que méditer, ça fait du bien, c'est un peu court quand même. Donc pour les partisans, méditer a toutes les vertus. Ça renforce le système immunitaire, ça ralentit le vieillissement et ça réduit l'inflammation, j'en passe. Néanmoins, pour les sceptiques... puisqu'il y en a quand même aussi, et on se doit de les écouter, c'est que toutes ces études ont été menées par des médecins qui pratiquent eux-mêmes la méditation. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit biais pratique ?
Bien sûr, hein, évidemment.
Voilà, qui offre un regard...
Sur un plan de l'épistémologie scientifique, oui, il y a un biais.
Il y a un biais. Néanmoins, on peut se dire que si ça peut être positif pour le corps. Mmh. Si c'est un outil de bien-être, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi s'en priver? Mmh. En tout cas, qu'est-ce que, par exemple, Antoine Lutz, qui est directeur de recherche à l'INSERM de Lyon, chercheur en neurosciences cognitives, a mis en évidence que la méditation modifie notamment le fonctionnement du cerveau, sa neuroplasticité. Mmh. Voilà, en permettant notamment de diminuer l'influence de l'amygdale, qui est la zone du cerveau qui est plus importante, par exemple, chez les personnes qui sont dépressives, qui ont donc tendance à voir les choses plutôt du côté négatif. D'accord. Et donc, méditer au quotidien, donc selon les études extrêmement sérieuses, voilà, on parle quand même de l'INSERM, hein, mm-hmm. Qui ont été menées, mettent en évidence qu'une pratique régulière, en tout cas, permettrait une plasticité, enfin, améliorerait, en tout cas, les fonctions cognitives de notre
D'accord.
cerveau.
D'accord.
Autre effet intéressant, donc cette fois-ci qui permettrait de réduire les pics de cortisol. Donc le cortisol, c'est une hormone qui est... alors il ne faut pas toujours critiquer l'influence du cortisol, hein. C'est une hormone qui est essentielle parce que si on n'avait jamais de stress, bah, on serait probablement une espèce éteinte.
Déjà morte, oui.
Voilà.
Bien sûr.
Mais trop stimulée, attention, c'est la maladie. Et donc justement, la méditation permet de réguler ces pics de cortisol.
D'accord.
Et autre effet intéressant, on a noté que le cerveau des grands méditants reste beaucoup plus serein avant et après un épisode de douleur. Mmh. Ce qui explique donc qu'on peut utiliser la pleine conscience, enfin les méditations de pleine conscience, pardon, notamment au moment d'opérations chirurgicales,
ouais.
de façon à diminuer les risques post-opératoires. Mmh. Autre élément important, la pratique méditative ralentit le vieillissement. En ayant notamment une action sur les télomères, qui donc est une partie de notre ADN. Et donc, alors pour faire simple, en fait, cette pratique permet de créer dans notre cerveau un environnement chimique plus favorable, mmh. qui permet donc non pas de stopper le processus, hein, attention, ce n'est pas une fontaine de jouvence non plus, la méditation, mmh. mais en tout cas de le ralentir et donc peut-être de vieillir en meilleure santé.
D'accord, très bien, ça en fait des belles choses. Tu avais des choses à rajouter au niveau des bénéfices, Emma ?
Tout à fait. Alors moi, je voulais parler des bénéfices aussi sur les enfants. Ah, notamment, d'accord. je voulais dire quelques mots sur Eileen Snell. Eileen Snell, c'est une thérapeute et une enseignante MBSR qui développe une technique d'abord pour ses propres enfants. Elle-même, elle pratique et donc elle développe cette pratique pour ses enfants. Et ça va devenir ensuite une méthode qui est exposée dans l'ouvrage « Calme et attentif comme une grenouille » que tu connais aussi, Geneviève.
Complètement.
Hein, le titre parle bien de lui-même. Au passage, cet ouvrage de méditation, donc, qui est destiné aux parents de jeunes enfants et aux enfants, est accompagné d'un CD avec la voix juste absolument incroyable de Sarah Giraudot. Moi, je suis absolument trop dingue de cette voix. Mmh. Et en fait, ça permet de faire comprendre aux enfants, de manière simple, comment se recentrer sur le moment présent. Et ça les aide aussi beaucoup dans la gestion de leurs émotions. Dès tout petit, hein, vers 4 ans, on peut commencer. Moi, j'ai fait aussi avec mes enfants. Et ils apprennent notamment à utiliser leur souffle pour apaiser leurs émotions.
D'accord. Mmh. Ok, c'est intéressant parce qu'on voit plutôt ça comme un outil d'adulte.
Eh ben, non,
un
ça
peu un télo et prise de tête.
Avec les enfants.
Finalement, ça marche avec les enfants.
Peut-être même que c'est le meilleur âge pour commencer.
Eh ben, je crois bien que oui.
Ok, alors on va passer à une partie suivante. Maintenant qu'on a vu un petit peu d'où ça vient, les côtés positifs et puis quelques exemples de pratiques, on va donc se demander pourquoi ça a eu un tel succès en Occident. Et voilà, faut remonter un petit peu au 19e siècle, hein, j'aurais tendance à dire. C'est une pratique spirituelle, on pourrait dire, mais en fait, à partir du 19e, il y a vraiment du côté de l'Occident, des pays européens, un moment de découverte des civilisations orientales, alors la Chine, le Japon, puis l'Inde, colonisées, hein, bien sûr. On les découvre par ce biais-là, en les colonisant. Et il va y avoir une vraie transmission, enfin, des connaissances qui vont arriver en Europe sur énormément de choses, sur la culture de ces pays et aussi sur leurs pratiques religieuses. Et donc là, ça va petit à petit faire écho et être récupéré alors, par divers courants, hein, courants spirituels un peu plus ou moins marginaux, et Tout comme, par exemple, les arts martiaux également vont arriver en Occident et vont être petit à petit pratiqués. Eh bien, c'est une pratique qui va être testée et adoptée parce qu'elle est assez efficace, en fait.
Et le yoga aussi, hein, c'est aussi une... Oui, dans le yoga, il y a une pratique de la méditation.
Tout à fait. Donc, il y a tout cet ensemble qui est vraiment... qui arrive massivement courant du XXe siècle en Occident. Moi, je peux penser aussi à des pratiques plus chinoises comme les pratiques taoïstes du tai chi et du qigong qui sont aussi des pratiques méditatives également. Donc voilà, ça va s'imprégner de façon très très diffuse dans plein de courants culturels, on pourrait dire, en Occident. Il y aura un moment d'accélération quand même à partir des années 60 à travers tout ce courant qu'on va appeler le développement personnel. Et New Age également, on peut aussi parler du New Age, hein, ce courant plus spécifiquement californien, dans les années entre 60 et début des années 80, où là, il y a récupération, remaniement de tout un tas de philosophies, spiritualité, pensées orientales et d'intégration dans des pratiques plus modernes. On pourrait parler, par exemple, de la sophrologie. La sophrologie, elle intègre des éléments de pratiques méditatives. Donc voilà, on a vraiment le constat que cette pratique de la méditation, elle s'est diffusée de partout. Alors bien évidemment, à l'occidental, avec plus un axe de connaissance de soi, d'accord. Et là, c'est le courant du développement personnel qui va pousser cette logique-là. Donc là, on est complètement séparé de la logique spirituelle. Mais certains courants gardent un peu cette dimension spirituelle. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur la raison du succès de la pratique de la méditation. Elle s'est multipliée en quelque sorte, mais c'est pas surprenant parce qu'on voit que les techniques de méditation sont très nombreuses, en fait.
Oui, bien sûr. Alors, il y a plein de formes.
Elles ont des éléments communs, mais elles sont très nombreuses.
Il y a aussi des méditations marchées.
Très bien.
Des méditations en mouvement.
Oui.
Il y en a vraiment plein de formes.
Très bien.
Finalement, il y en a forcément une qui nous correspond.
Oui, oui, voilà. Et on peut assez facilement arriver à rencontrer une pratique, si on est un petit peu curieux, si on est un petit peu ouvert aux expériences. Oui, c'est assez facile d'arriver à un moment où on va tester de la méditation sous telle ou telle forme. Voilà. On va faire une deuxième pause musicale. Ce sera encore la surprise. C'est parti.
Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures. Et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concile la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveillais l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave. Que c'est que des échimaux, des bobos. Dis-moi que tout est possible. À ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille à l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir.
j'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveillais l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à la méditation avec Emma comme invitée, invitée qui devient une invitée récurrente.
J'adore ça.
Et Geneviève, bien sûr, fidèle au poste, quand il s'agit de sujets comme ça, Geneviève n'est pas loin et apporte ses compétences. Nous venons d'écouter, Emma, qu'est-ce que nous venons d'écouter ?
Nous venons d'écouter Ben Mazué, mon chouchou.
Ton chouchou ? Très bien. Et il chantait quoi ?
Il chantait « J'arrive ».
D'accord, très bien. Merci Ben Mazué.
Bien, puisque nous sommes arrivés, allons-y.
Eh bien, on va continuer, alors, parce qu'on est arrivé. Je vais un peu vous présenter, maintenant qu'on a parlé des aspects positifs, les raisons du succès, les origines, etc., etc. Je vais développer un tout petit peu l'aspect un peu critique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une pratique qui a pu, qui peut être, à qui on peut faire des reproches de récupération, de dérive, etc. Mais en fait, en France, on est toujours assez paranoïaque hein, vis-à-vis des pratiques qui viennent d'Orient ou qui viennent d'ailleurs. On craint toujours les dérives sectaires, etc., etc. Alors, on peut parler, par exemple, d'une méditation qui a été très populaire, qui continue à l'être. C'est la méditation transcendantale. Elle est introduite en 1955 par un gars qui s'appelle Maharishi Mahesh, yogi, voilà, donc un indien.
C'est,
hein,
comme ça se prononce.
Qui est mort en 2008, il n'y a pas si longtemps. Et c'est lui qui a mis au point cette pratique, et surtout c'est un businessman ce gars-là. Hein, d'accord, il a mis en place une organisation qui compte des écoles, des universités, par exemple la Maharishi University of Management, des centres de médecine ayurvédique, c'est un indien, hein, d'accord. Et donc il a créé ce mouvement et il en a fait un chouette business, hein, d'accord, qui s'est beaucoup développé en Occident, qui a eu un énorme succès. Alors, on a un monsieur qui est un sociologue des religions, qui s'appelle Rodney Stark, qui disait de la méditation transcendantale, il disait que c'est une technique de méditation indienne simplifiée et adaptée au marché occidental. Ben voilà, on a tout dit. Hein. C'est une approche marketing, voilà, c'est un truc adapté au marché. Il y a une cible, c'est le marché. OK, on modifie le produit pour qu'il plaise.
Donc, voilà. Manipulation quand même un peu.
Non, c'est du business, c'est du capitalisme, ça s'appelle, madame. Ça veut dire que les Indiens sont aussi des capitalistes. Bravo. Évidemment, dans
foutu.
Le discours marketing, elle prétend cette méditation transcendantale à une efficacité supérieure à celle des autres. Bon, pas de bol. Hein, comme d'habitude, les scientifiques se sont dit, bon, on va tester. Et ils ont trouvé que non, elle n'est pas plus efficace que d'autres pratiques. Voilà. C'est juste une approche très, très business et très occidentale. Voilà. Enfin, très adaptée à l'Occident. Alors, évidemment, en France, comme on voit des sectes partout, on a qualifié de sectaire cette méditation. Peut-être qu'elle est récupérée dans des milieux sectaires, c'est possible. Mais cette contestation, même en France, cette affirmation a été contestée, hein, même en France, par d'autres personnes qui disent non, arrêtez de voir des sectes partout. Je pense que c'est surtout son côté machine à pognon qui fait un peu son image un peu
négative.
Voilà. Elle est soutenue, hein, cette méditation, par des grandes stars, hein, Lady Gaga, David Lynch, etc., etc. Ça, c'était le premier point que j'avais un peu récupéré en termes d'aspect critique. Le deuxième point, je vais surtout le lier à un grand courant que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est le courant du développement personnel, en fait. Parce qu'en fait, je dirais, les dérives de la méditation, c'est surtout les dérives d'une méditation incluse dans diverses pratiques de développement personnel. Alors, le développement personnel, les reproches qu'on peut en faire... les reproches les plus récents, je dirais, les critiques les plus récentes et les plus modernes, on pourrait dire, du développement personnel sont assez intéressantes. Elles ont été développées par divers intellectuels, divers philosophes qui ont écrit des bouquins là-dessus. La question, c'est que c'est quoi l'idéologie cachée derrière le développement personnel, derrière ce discours officiel qui dit quoi ? Ben, en fait, ce discours officiel, il dit que on est un individu autonome, on doit déployer notre plein potentiel, on doit se réaliser. Mais se réaliser pourquoi ? Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un vrai lien entre cette affirmation de développement de soi, de réalisation de soi, et puis des impératifs de rentabilité, d'efficacité dans la machine capitaliste, dans le monde des entreprises. Et d'ailleurs, c'est un discours qui est de plus en plus repris dans le monde des entreprises. Il faut que les individus soient autonomes, se réalisent, mais en fait, ça veut dire soyez votre propre exploiteur. Vous êtes l'exploiteur de vous-même en quelque sorte.
Alors, tu veux dire que méditer, ça peut pas se conjuguer à l'impératif, en fait?
Non, mais méditer, ça serait une bonne chose. Ouais, ça serait un point à relever, un paradoxe, effectivement. Non, pas d'impératif dans la méditation. Alors, une illustration limite caricaturale, tellement elle tombe juste de cette dérive du développement personnel, c'est ce cher Jacques Attali. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Attali.
Exactement.
C'est un monsieur qui a été le conseiller des puissants dès Mitterrand. Il était très jeune, il était conseiller de Mitterrand et il a conseillé les puissants pendant les gouvernants au niveau français pendant 40 ans. C'est un des grands penseurs du néolibéralisme à la française. Hein. Il a présidé une commission pour la libération de la croissance française en 2008 avec Emmanuel Macron dans ses troupes. Et donc, il publie, devinez quoi, en 2014, un livre « Devenir soi », un livre de développement personnel, quoi, vraiment. Donc là, on a un lien et je vous citais une phrase qui est au début de son livre, parce qu'elle est tellement représentative. Il dit dans ce livre « Devenir soi », j'ouvre les guillemets, « dans un monde aujourd'hui insupportable », donc déjà, on tombe à
Ami
des lieux communs, bonjour, hein, d'accord. De tout temps, on dit toujours que le monde est insupportable, et qui bientôt le sera bien plus encore pour beaucoup. Il n'y a rien à attendre de personne. Il est temps pour chacun de se prendre en main. Ne vous contentez pas de réclamer une allocation ou une protection à l'État. Arrachez-vous à... je tourne ma page, à la routine, aux habitudes, au destin tout tracé, à une vie choisie par d'autres, choisissez votre vie. Ferme les guillemets. En fait, dans cette phrase, tout y est dans le désordre. Il y a l'injonction à être soi-même, l'injonction à se dépasser. Donc ça, c'est le lieu commun du développement personnel. La philosophie de vie qui rejette le collectif et glorifie l'individualisme. Ça, c'est ses connexions avec l'idéologie néolibérale. La critique de l'État-providence et le mépris implicite pour ce qu'il appelle dans son livre les résignés réclamants. Que Emmanuel Macron appelait ceux qui ne sont rien. D'accord ? Donc il y a vraiment, de façon très claire, ce lien entre le développement personnel, son discours, et la façon dont il a été récupéré par l'idéologie capitaliste, en quelque sorte. Et il y a un auteur, je crois qu'il est philosophe, qui s'appelle Thierry Jobard, qui a écrit il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle « Contre le développement personnel ». Comme ça, les choses sont claires. Hein, voilà. Et dans cet ouvrage, qui est assez court, mais assez percutant, il présente un peu le résultat de cette transmutation du développement personnel. Il dit « L'adepte du développement personnel, pratiquant régulier de la méditation, est devenu l'investisseur de son propre moi. » Et donc Thierry Jobard appelle cet adepte le sujet néolibéral. Il s'agit par ce processus de transformer l'individu en un capital. Toutes les notions à la mode dans le management moderne, comme la nécessité de développer nos soft skills, l'empowerment, etc. Tout ça, ça nous pousse dans cette direction. La réalisation de soi est passée du domaine spirituel au champ du capitalisme. Ça se traduit concrètement par « il faut développer nos potentialités ». Mais dans quel but ? La libération de soi ? Un but spirituel ? Non, pas du tout. Pour servir la machine capitaliste, pour créer de la richesse pour l'entreprise et ses actionnaires. Voilà, donc c'est un peu une des critiques les plus récentes. Après, il y a évidemment beaucoup de dérives sectaires dans le développement personnel, mais c'est une des critiques les plus récentes de la façon dont on peut partir de divers outils, dont la méditation, et vraiment les pervertir complètement quant à sa finalité. Voilà, donc... En conclusion, je rajoute une petite chose. Voilà, la manie, mais je l'ai déjà citée, qu'on a en France de stigmatiser des pratiques en les affublant de stigmates sectaires en permanence. C'est rarement les pratiques qui posent problème, hein, d'accord ? C'est la façon dont elles sont dévoyées, en quelque sorte.
Complètement. Et finalement, faire de la méditation une pratique comme une coquille vide, finalement,
ouais,
se contenter de l'apparence.
En la pervertissant. Hein.
On la pervertit, et voilà comment on arrive à écrire... quelque part, une injonction à être soi-même, à être heureux. Soyez heureux.
Et productif.
Ouais, et surtout productif. Ouais.
Voilà.
Et ça rapporte combien, ça ? C'est rentable, monsieur ?
Ouais, voilà, exactement. Alors, on va passer à une dernière partie et on va faire une proposition, chers auditeurs. On va vous faire une proposition. Une petite séance, Emma ?
Une petite séance. Alors, j'ai deux, trois choses à expliquer avant quand même. Hein.
D'accord.
Donc,
règle du jeu,
petite
consigne.
Petite séance de la méditation pleine conscience. D'abord, l'idée, c'est quoi ? C'est de vivre l'instant présent, d'accueillir les sensations du corps, les émotions et de laisser le cerveau en paix. Tout être humain a des pensées, il n'est pas possible de les arrêter. En fait, personne ne peut arrêter de penser. En revanche, on peut laisser ces pensées être là sans s'y accrocher, sans s'identifier à elles, sans les laisser nous envahir. En fait, on peut imaginer que nos pensées, ce sont une cascade. Dans la vie de tous les jours, on est constamment sous la cascade, on est envahi par ses pensées. Mmh. C'est le blabla dans notre cerveau dont je parlais tout à l'heure. Au point de vivre davantage finalement dans ses pensées que dans le présent. Lors de la méditation, on va s'arrêter, on va faire un pas de côté et on va regarder la cascade couler. Donc d'accord. Les pensées, elles seront toujours là, mais on pourra les regarder et prendre conscience que ce ne sont que des pensées et pas s'y accrocher. Mmh. Et dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti dans une pensée, on va la laisser s'en aller, sans
suivre
juger.
Suivre son cours et disparaître.
En fait, le docteur Chaigne, elle dit que la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est le va-et-vient continuel entre le fait de se faire attraper par ses pensées et le fait de revenir à l'instant présent. Je crois que ça vient de John Kabat-Zinn, cette image-là.
D'accord.
Alors, pour méditer, on a besoin de trois ancrages. D'abord, le corps. Hein, vous allez voir, on va se mettre assis sur une chaise, le dos droit, décollé du dossier.
Donc, on demande aux auditeurs, voilà, asseyez bien.
Alors, pas tout de suite. Attends,
pas tout de suite. Voilà, chers auditeurs, pas tout de suite.
On peut se mettre soit assis sur une chaise, soit en tailleur, sur un coussin. Alors, ça peut être un coussin de méditation, un safou ou un coussin.
Oui, si vous n'avez pas ça chez vous, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave.
Hein.
Ça ne nuit pas à l'exercice.
Intéressant quand même pour être bien confortable, c'est d'avoir les hanches plus haut que les genoux. Ou les genoux plus bas que les hanches, comme vous
d'accord.
voulez. Voilà. Et comme on va rester immobile, alors là, ça ne va pas durer longtemps, ma petite pratique, mais quand on pratique un peu plus, c'est important d'être bien, bien installé. Hein. Donc,
oui,
toujours,
bien sûr. Il faut être au départ dans une bonne posture.
D'autant que c'est un des ancrages, le corps.
Ouais.
Deuxième ancrage, la respiration. On va prendre conscience de sa respiration sans la modifier. Vous allez voir tout à l'heure, suivre le trajet de l'air à l'inspire, à l'expire. Je vous expliquerai, je guiderai vraiment cela. Et puis les sons, on va prêter attention aux sons qui sont autour de nous, sans juger, sans commenter, juste écouter. En fait, on va arrêter le bavardage constant qui se fait dans notre tête, presque à notre insu. On va le regarder. On ne peut pas le stopper, mais on peut le regarder et le ralentir. Juste une chose, dans cette pratique qu'on va faire là, je voulais juste te donner une différence avec la méditation bouddhiste, c'est qu'il y a aussi des décentrages, des désancrages en fait dans la méditation bouddhiste avec une ouverture. En fait, en méditation bouddhiste, on va vraiment utiliser les cinq sens, c'est-à-dire petit à petit, on va amener les méditants à ouvrir les yeux. Déjà, souvent, ils sont plutôt mi-clos dès le départ. Et en fait, l'idée, c'est que quand on vit dans notre vie, on a les yeux ouverts.
Bah oui, bien sûr.
Et donc, du coup, méditer les yeux fermés, au bout d'un moment, c'est pas suffisant.
C'est très limitant.
Et donc, du coup, je le dis par ailleurs pour les gens qui pratiquent la méditation depuis longtemps, ça peut être intéressant de commencer un petit peu, tranquillement, petit à petit, à ouvrir les yeux en ayant vraiment une vision panoramique des choses. Et ça permet aussi de se décentrer de soi-même.
D'accord.
Et puis, encore des petits avertissements avant que je lance la pratique. On va accepter de prendre trois renoncements pour le temps de la méditation, pour le temps de la pratique. Premier renoncement, on renonce à se juger et à juger ce qu'on est en train de faire.
D'accord.
Deuxième renoncement, on renonce à attendre quelque chose de précis. Oui. On va faire l'expérience. Mmh. On sait que ça a des effets bénéfiques à long terme, mais pas forcément sur le moment. D'accord. Sur le moment, ça ne va pas forcément nous faire du bien. Ce n'est pas une relaxation, ce n'est pas de la sophrologie. Troisième renoncement, on renonce à faire le tri entre les émotions positives et les émotions négatives qui se présentent.
D'accord.
On va toutes les laisser être là et on va les accueillir.
D'accord.
Sans juger. Alors, 3 minutes de pratique, c'est parti ?
C'est parti.
Je vous propose de vous laisser guider. Alors, je vous propose de vous installer confortablement, soit sur une chaise, soit au sol en tailleur, sur un coussin, de garder le dos droit, les appuis bien ancrés dans le sol. Pendant ces quelques minutes, je vous propose de rester le plus possible immobile. Cependant, si un non-confort trop important se présente, n'hésitez pas à modifier légèrement votre posture. À présent, je vous invite à fermer les yeux. Pour une première approche, c'est mieux. Ou si ce n'est pas confortable pour vous, à les garder mi-clos. Et je vous propose de sentir comment est votre corps maintenant. Vous pouvez commencer par sentir les points d'appui de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Quelles zones sont en contact avec la chaise ou le sol? Qu'est-ce que ça fait de prêter attention à la pression exercée par votre corps sur ces zones? Observez sans juger. Si une pensée traverse votre esprit, dès que vous vous en rendez compte, laissez-la partir et focalisez à nouveau votre attention sur votre corps. Maintenant, je vous propose de laisser les sensations corporelles au second plan et de placer votre attention sur votre respiration. Je vous invite plutôt à respirer par le nez, sans modifier votre respiration naturelle. À l'inspiration, sentez l'air frais qui passe dans votre nez, puis dans votre gorge, qui descend par la trachée jusqu'à vos poumons, puis votre ventre. Et puis à l'expiration, sentez votre ventre et vos poumons qui se dégonflent. Sentez l'air remonter au niveau de la gorge, puis du nez, et observez comme l'air qui ressort par le nez est plus tiède que quand il est entré. Vous pouvez faire cela à 3 reprises. Si des pensées vous traversent, dès que vous vous en apercevez, laissez-les passer, sans juger, et portez de nouveau attention à votre respiration. Je vous propose d'inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Pour finir, je vous propose de laisser la respiration en arrière-plan et de porter attention sur les sons. Il s'agit d'accueillir tous les sons sans les juger. Je vous propose de prêter attention aux sons qui sont proches de vous et aussi à ceux qui sont lointains. Essayez d'élargir votre conscience pour englober tous les sons sans faire le tri. Et encore une fois, si des pensées vous traversent, lorsque vous le réalisez, portez de nouveau votre attention sur les sons. À présent, je vous invite à faire 3 profondes respirations, puis à commencer à légèrement bouger vos doigts, vos jambes, votre tête, tranquillement. Vous pouvez vous étirer et quand vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux.
Mais c'est formidable tout ça.
Ça vous a fait du bien ?
Tout à fait, tout à fait. 3 minutes chrono, un peu de méditation. On est très proche des techniques de sophrologie, relaxation, on voit à quel point toutes ces techniques ont repris les fondamentaux de la méditation.
Mais la différence, c'est que là, on ne cherche pas à se détendre. On écoute son corps, on écoute sa respiration, on laisse venir les émotions.
C'est le bénéfice qui vient avec, même s'il n'est pas demandé, chez moi en tout cas.
Oui, absolument, mais en sophrologie, on va plutôt essayer de les faire partir.
D'accord, très bien. Ok, bah écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Des mots de conclusion, Geneviève ?
Écoute, je ne vais pas aller chercher ça bien loin. Je dirais juste que je vais réécouter cette émission très régulièrement. Je ne sais pas ce que vous en dites, vous, à la maison.
Très bien, tout à fait, voilà. Un peu de relaxation. Merci Emma d'être venue nous assister dans ce petit voyage.
Merci
vous. Geneviève, merci Jean-François à la technique. Chers auditeurs, au mois prochain.
Poker menteur.
Avec Geneviève Huglot dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouillot dans le rôle de Patrick Trouillot.
Poker menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9. We'll be right back.